Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez ActuVu, le podcast hebdomadaire qui vous résume l'actualité. Féru d'actu ou candidat au concours des écoles, c'est l'heure de vous installer confortablement pour écouter le résumé de la semaine par notre bande de copains. Moi c'est Chloé et nous serons ensemble pour les 20 prochaines minutes. Exceptionnellement, on enregistre cette émission jeudi parce que vendredi c'est l'armistice, c'est pas qu'on fait grève mais juste que le studio sera fermé. Au programme aujourd'hui, un retour sur les révélations qui secouent l'église catholique française. On s'envolera ensuite aux États-Unis pour vous expliquer ce que sont les mid-termes et ce qu'elles vont changer ou non pour le pays. On va parler de laïcité à l'école, de la menace qui plane sur le monde de l'édition ou encore de la Coupe du Monde de rugby. Et pour finir en beauté, Apo vous donnera tous ses précieux conseils pour devenir incollable sur notre belle langue française. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, mais tout de suite, les infos immanquables de la semaine avec Louis dans Affluoté.
Un chien à ma table, c'est le titre du roman de l'autrice Claudie Hussinger qui a remporté le prix Femina 2022. Le livre met en scène un trio étrange, une petite chienne, une écrivaine et son compagnon qui vivent une vie en marge de la société au fin fond des Vosges. Nouvelle alliance chez Renault. La marque aux losanges a présenté mardi 8 octobre sa stratégie qui dissocie l'électrique du thermique. Elle s'allie au géant chinois Geely qui profitera du savoir-faire de Renault mais aussi de Nissan, son autre partenaire. Les discussions sur l'évolution de l'alliance avec la marque Nippon sont encore en pourparlers. L'homosexualité, un dommage mental. Ces propos homophobes ont été prononcés par l'ambassadeur qatari du mondial de football. Il déplore que la phrase ait été sortie de son contexte, mais rappelle que l'homosexualité est interdite dans son pays. Des propos peu en accord avec ceux de l'émir du Qatar. Il assurait en septembre que tous les supporters seraient accueillis sans discrimination. Ce n'est pas un pied de nez, mais un nez de bras. L'Institut du cancer de Toulouse Oncopole a implanté sur le bras d'une patiente un hémodébilisé en 3D. Il a ensuite été transplanté sur son visage pour terminer sa reconstitution complète. C'est une première dans le monde de la médecine. L'épidémie de bronchiolite continue de progresser en France. Le ministère de la Santé a lancé un plan blanc nommé Orsan. Il vise à lutter contre l'épidémie suite à la publication des chiffres de Santé publique France. Pour rappel, le taux d'hospitalisation n'avait jamais été aussi haut depuis 10 ans chez les nourrissons. Tout roule pour Jean Castex. Le Parlement a donné son feu vert pour la nomination de l'ancien Premier ministre à la tête de la RATP. L'ancien maire de Prades aura fort à faire alors que les réseaux franciliens font face à de nombreux défis comme la transition écologique, la contestation des salariés et la difficulté à recruter. 8 milliards, ce n'est pas le chiffre du profit de Total dans ce dernier trimestre, mais ceux du nombre d'humains sur Terre. Selon la modélisation de l'Organisation des Nations Unies, l'humanité devrait franchir ce cap le 15 novembre prochain.
Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy.
Nous sommes en guerre.
Mon ennemi, c'est la finance.
Écoutez, petit bonhomme.
Des révélations choquent secouent l'église catholique française, Gabriel.
Oui, 11 évêques français mis en cause pour des affaires de violences sexuelles ou de non-dénonciation de telles affaires, le tout en pleine conférence des évêques de France à Lourdes. Cette conférence a dû faire face à 3 scandales consécutifs. Des révélations comme une onde de choc, jusqu'à maintenant, seuls des prêtres avaient été mis en cause.
Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 3 scandales, Gabriel ?
Eh bien, le premier a eu lieu mi-octobre, avant l'ouverture de ce rassemblement à Lourdes. La presse a révélé que l'évêque Michel Sentier avait été sanctionné secrètement par l'Église catholique en 2021. Une affaire de voyeurisme sur 2 jeunes hommes adultes. La conférence des évêques de France s'était donc ouverte dans un climat déjà pesant. Mais lundi, le président de l'événement, Éric de Moulin-Beaufort, a dévoilé encore d'autres affaires, portant le nombre d'évêques impliqués à 11. L'un d'entre eux, et c'est là la troisième pierre de cette vague de révélations, a tenu à s'exprimer dans une lettre lue en conférence de presse par Éric de Moulin-Beaufort.
Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre ?
« Je me suis conduit de manière répréhensible avec une jeune fille de 14 ans », avoue-t-il donc par écrit. C'est le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien évêque de Bordeaux. Les faits remontent à 35 ans. Des aveux qui dérangent quand on sait que le cardinal en question est membre du dicaster pour la doctrine de la foi à Rome, une sorte de ministère chargé entre autres des affaires de violences sexuelles. Un an après la publication du rapport Sauvé, ces déclarations montrent à nouveau les difficultés de l'Église à gérer de façon transparente ses affaires. Éric de Moulin-Beaufort a reconnu des insuffisances graves et des dysfonctionnements à tous les niveaux.
Et il y a du nouveau à Sainte-Soline où le chantier de la méga-bassine a repris mardi 8 novembre.
Oui, un projet contre lequel plus d'un millier de militants écologistes avaient manifesté la semaine dernière. Une méga-bassine est une énorme retenue d'eau puisée à l'hiver dans les nappes phréatiques. Le but, stocker de l'eau pour irriguer les zones agricoles en cas de sécheresse. Les opposants dénoncent un projet qui encourage une agriculture intensive et trop gourmande en eau. Le gouvernement, lui, y voit une adaptation nécessaire au changement climatique.
Et en parlant d'écologie, des soupçons de conflit d'intérêts planent sur la ministre de la Transition écologique.
Des révélations du média d'investigation Disclose, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher seraient actionnaires dans une société nommée Arjunem et créée par le père de la ministre, une entreprise en partie domiciliée dans des paradis fiscaux et en lien également avec la société pétrolière Perenco. Pas de mention d'ailleurs de cette société dans la déclaration de patrimoine d'Agnès Pannier-Runacher, mais il n'y avait pas d'obligation pour la ministre de déclarer le patrimoine de ses enfants, selon la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. L'instance a néanmoins ouvert une enquête.
Everybody knows the rules. You are entitled to a beautiful new blue passport.
We did it, Joe.
God bless you all.
Ce fut un bon jour pour la démocratie. Alors que nous attendons encore les résultats des élections de mi-mandat américaines qui ont eu lieu le 8 novembre, Joe Biden se dit satisfait. Et pour cause, contre toute attente, le camp de Trump, les Républicains, n'a pas eu le succès prévu aux élections. Alors s'ils sont en bonne voie pour remporter la Chambre des représentants, les résultats sont plus serrés pour le Sénat. Mais alors Lorena, qu'est-ce que c'est que ces élections en plein milieu d'un mandat présidentiel ?
2 ans après avoir choisi leur président, les Américains sont de nouveau appelés aux urnes. Avec cette élection, ils renouvellent la totalité des 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 sièges au Sénat. C'est ce qu'on appelle les mi-termes, soit en bon français, les élections de mi-mandat. Un scrutin essentiel pour les citoyens américains, mais aussi pour le président Joe Biden, pour qui ce vote ressemble aussi à un référendum pour ou contre le locataire de la Maison-Blanche.
Et les Américains votent aussi pour désigner leurs gouverneurs, des membres d'assemblées locales, des magistrats et même des shérifs.
Un grand nombre d'entre eux doivent s'exprimer sur des référendums pour faire évoluer la législation locale. Ici, pas question d'un simple petit bout de papier à glisser dans l'urne. Le bulletin de vote s'étale sur plusieurs pages. Ils sont invités à donner leurs avis sur plusieurs sujets. Cela explique notamment pourquoi le dépouillement est aussi long.
Alors un dépouillement long certes, mais des résultats qui se précisent tout de même. La prophétie de la vague rouge qui assurait aux républicains une large majorité dans les deux chambres n'a pas eu lieu. Mais c'est quoi la suite pour eux ?
Leur mainmise sur la chambre basse va leur permettre de compliquer la tâche à Joe Biden. Avec cette défaite, difficile pour lui de mettre en œuvre la suite de son agenda politique. Pourrait par exemple être menacé le droit à l'avortement si le président n'arrive pas à faire passer des lois pour le protéger. Pour les résultats du Sénat, il faudra encore être patient car certains États, comme la Géorgie, organisent un second tour, verdict au mois de décembre.
Retour en Europe maintenant où l'ambiance est un chouïa tendue entre la France et l'Italie.
En effet, depuis quelques semaines, la crise migratoire est revenue au centre des préoccupations. Depuis l'élection de Giorgia Meloni à la tête de l'Italie, la situation est particulièrement tendue. Alors que le pays durcit ses règles en matière d'accueil, les associations de protection des migrants les exhortent à respecter le droit international. Dimanche soir, 2 bateaux ont pu accoster en Sicile, mais seules les femmes et les enfants ont été autorisés à débarquer. Certains hommes désespérés ont sauté à l'eau. Ils ont été récupérés rapidement, mais cela témoigne de la détresse dans laquelle ils se trouvent.
Heureusement, bonne nouvelle pour les 234 passagers de l'Ocean Viking. La France a annoncé ce jeudi que le port de Toulon allait pouvoir accueillir le navire à titre exceptionnel. Et c'est encore raté pour le lancement d'Artemis 1.
C'est à croire que la mission qui permettra de retourner sur la Lune ne commencera jamais. Depuis la fin du mois d'août, plusieurs lancements ont dû être annulés pour diverses raisons. Cette fois, c'est la tempête Nicole qui devrait frapper la Floride en milieu de semaine qui met en péril le lancement prévu le 14 novembre. Le décollage devrait avoir lieu le 16 novembre si les conditions sont réunies. Sinon, une nouvelle date sera envisagée le 19 novembre.
Le blé, fais gaffe, un coup t'en as, un coup t'en as plus.
Elle est là, la réalité de nos hôpitaux.
Oh, gardez vos nerfs.
Moi, je suis une star des maladies infectieuses.
Le ministère de l'Éducation a publié un nouveau rapport cette semaine. Il concerne les atteintes à la laïcité dans les écoles et dans les établissements du secondaire. Au sein des rangs du ministère, l'inquiétude s'installe, Bruno.
Au mois d'octobre, 720 signalements d'atteinte au principe de laïcité ont été recensés. Durant le mois de septembre, il n'y en avait eu que 313.
Et ces atteintes à la laïcité, c'est quoi concrètement ?
Alors, selon le rapport publié par le ministère, c'est majoritairement des incidents liés au port de signes et de tenues religieuses. Cela peut aussi prendre la forme de provocations verbales. Un élève qui conteste l'enseignement de son prof ou qui refuse de participer à une activité scolaire. Bref, des agissements qui rappellent cet incident jugé presque sans importance dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine. C'est là que Samuel Paty avait été assassiné il y a déjà 2 ans.
Le professeur d'histoire géo a été assassiné le 16 octobre 2020, pour rappel. J'imagine que cette date d'anniversaire n'y est pas pour rien dans la hausse alarmante du nombre de signalements.
Oui, Chloé, c'est en effet une des pistes mises en avant par Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation. Comme l'année dernière, c'est une période particulière où les signalements pour désobéissance et contestation du programme sont nombreux. En plus, le ministère insiste bien auprès des chefs d'établissement, il ne faut rien laisser passer. Et forcément, si les incidents n'augmentent peut-être pas en réalité, on a tendance à les signaler plus fréquemment quand on nous le répète souvent de le faire. Autre cause mise en avant par Pape Ndiaye, une certaine mode sur TikTok en ce moment d'encourager les élèves à la désobéissance. D'autres TikTok inciteraient à porter certaines tenues religieuses malgré la laïcité imposée, des vidéos qui deviennent très vite virales.
Et c'est quoi le plan du gouvernement face à ça ?
Dans un document envoyé à tous les établissements scolaires, le ministère détaille le plan laïcité qu'il veut mettre en place. Parmi les axes d'amélioration, le ministère souhaite accélérer la prise de sanctions. Autre point évoqué dans le document, la formation. L'objectif, sécuriser l'action du personnel scolaire et leur apprendre à réagir face à ces manquements à la laïcité.
On parlait déjà du repas à 1 euro proposé par le Crous la semaine dernière et il y a du nouveau à ce sujet.
Oui, décidément, ces temps d'inflation, la question de la précarité étudiante semble être enfin sur le devant de la scène. Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, était chez nos très chers confrères de Sud Radio. Si cela fait depuis longtemps que le repas 1 euro est garanti aux étudiants boursiers, il le sera aussi aux étudiants en situation de précarité, et ce jusqu'à Noël. Après les fêtes, le statut des étudiants sera étudié au cas par cas par le Crous afin de leur permettre de garder ce repas 1 euro.
Donc on peut être précaire et ne pas être boursier.
Alors oui, quand j'ai vu l'info pour la première fois, j'ai pas tout de suite compris non plus, mais en réalité, il y a bien des situations où on peut être en situation de précarité sans être boursier. Par exemple, tout simple, ça peut être le cas si tu as quitté le domicile familial et tes parents ne t'aident pas financièrement pour des raisons personnelles. Autre cas, si tu as tout simplement été trop absent en cours, tu peux perdre ta bourse. Donc j'espère pour toi que tu as réfléchi à deux fois avant de sécher à trois reprises ton TD du lundi matin.
Sylvie Retailleau a admis être consciente que cela ne suffisait pas. Pour rappel, la ministre a lancé une concertation nationale pour trouver le meilleur modèle pour répondre à la précarité étudiante. Un sondage de l'Institut Audirep paru cette semaine montre que la majorité des 18-25 ans ont déjà subi du cyberharcèlement.
60%, c'est la part aussi impressionnante qu'inquiétante du nombre de jeunes qui auraient déjà subi du harcèlement sur Internet. Par harcèlement, le sondage entend aussi bien moquerie sur les réseaux sociaux qu'insultes et acharnement par message privé. C'est l'association e-Enfance qui a commandé cette enquête. Enquête qui arrive à point nommé pour la journée nationale contre le harcèlement du 10 novembre dernier. L'association enregistre une hausse importante du nombre d'appels sur leur standard, 24 000 sur la dernière année.
Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cette hausse ?
Eh bien, du côté d'e-Enfance, on a trouvé des éléments de réponse et les périodes de confinement en font partie. Évidemment, confinés chez nous, on a tendance à beaucoup trop traîner sur les réseaux, voire à en utiliser de nouveau pour rester en contact avec ses potes. Et comme pour tout, les réseaux, on peut les utiliser pour faire des choses géniales, mais ça donne aussi l'occasion à certains de se comporter en parfaits imbéciles. TikTok semble être le nouveau terrain de jeu des harceleurs. Le réseau chinois reçoit plus de signalements que Facebook, qui semble être définitivement abandonné aux plus vieilles générations.
Le sondage montre aussi que le harcèlement peut parfois conduire à des conséquences lourdes et que 49% des jeunes interrogés ont déjà pensé au suicide.
And the Oscar goes to...
Ici Bob Sinclair, j'écoute.
Quand on y va, on va agressif.
La chatte qu'il a, la chatte.
C'est la saison des prix littéraires. Prix Goncourt attribué à Brigitte Giraud pour Vivre Vite, prix Renaudot pour le livre Performance de Simon Liberati. Les romans, on les aime parce qu'ils nous marquent, nous ennuient, nous bouleversent et nous font même parfois pleurer. Toutes ces émotions, elles viennent de la plume des auteurs, de leur façon si singulière de nous raconter le monde, de leur liberté. Et si demain, il la perdait cette liberté, Louise ?
Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui agite le monde du livre depuis déjà plusieurs mois. L'appétit du milliardaire Vincent Bolloré sur l'édition pourrait mettre en péril l'indépendance des écrivains. Pour rappeler les faits, en octobre 2021, Vincent Bolloré lance une OPA, une opération publique d'achat, sur le groupe Lagardère et donc sur Hachette Livre, un fleuron de l'édition qui regroupe entre autres Fayard, Grasset ou encore Stock. Jusqu'ici, rien de bien méchant, sauf que le milliardaire possède aussi Editis, un autre groupe gigantesque acquis en 2018. À elle deux, ces maisons représentent 50% du marché de l'édition, provoquant ainsi une situation inédite de quasi-monopole.
Alors comme ça, notre cher Vincent se lance dans une nouvelle croisade idéologique.
Étonnant, pas vrai ? Après les médias, il semble vraiment vouloir conquérir le monde de l'édition. Mais le milliardaire a été obligé de revoir sa stratégie, parce qu'il a pressenti un refus de l'autorité de la concurrence. Et pour conserver Hachette, il a donc décidé de mettre en vente Editis.
Du coup, si j'ai bien compris, on est quand même loin du problème de la concentration du monde de l'édition ?
On n'y est pas encore, c'est vrai. Mais tu vois, au début, je me disais que tant que les écrivains pouvaient aller ailleurs, bah ça allait. Eh ben non, ça va pas trop. Ce ne sont pas seulement les auteurs qui sont impactés, mais tout l'écosystème médiatique. Par exemple, Si demain je décide d'écrire un livre et que Hachette refuse de m'éditer parce que cela va à l'encontre de leurs idéaux, ça veut dire que je ne peux pas être critiquée dans le JDD, je ne peux pas non plus faire ma promo sur CNews Europe 1, et je ne pourrai pas avoir mon livre adapté en série sur Canal. Bon, je vais un peu loin, c'est vrai, mais c'est pour expliquer que le rachat d'Hachette pose quand même des questions d'éthique.
Et là, ça se passe comment chez Hachette, du coup, depuis le rachat? J'ai vu que Jacques Attali avait quitté Fayard.
Oui, il a suivi son éditrice Sophie de Closet, et il n'est pas le seul. En tout, une quinzaine d'auteurs ont suivi l'éditrice. S'ils font ça, c'est surtout pour rester libres d'écrire ce qu'ils veulent, parce que plusieurs auteurs ont vu leurs livres se faire annuler. Dernier exemple que je trouve assez marquant, en septembre, Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur sur France Inter, a vu son dictionnaire Le fin mot de l'histoire en 200 expressions se faire tout simplement annuler. Pourquoi? Alors, très prévisible, une blague sur Vincent Bolloré qu'il a refusé de supprimer.
Et alors, ce qui inquiète les écrivains, c'est la possibilité que notre cher ami Bolloré impose une ligne éditoriale dans ses maisons d'édition, comme il l'a fait dans les médias. Dans une tribune pour le journal Le Monde, 10 auteurs appellent à la mise en place d'une clause de conscience.
Ils dénoncent un nouveau système qui favorise les actionnaires plutôt que les auteurs. Ils voudraient donc bénéficier, comme les journalistes, d'une clause de conscience. Cette fameuse clause leur permettrait de mettre fin à leur contrat quand une maison d'édition se fait racheter, et donc de pouvoir confier les droits d'exploitation de leurs œuvres à quelqu'un d'autre.
Alors on pourrait discuter longtemps de ce sujet qui continuera sans doute de faire parler de lui durant les prochains mois. Mais malheureusement, Louise, le temps passe, alors si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à regarder l'émission C'est médiatique du 6 novembre qui explique très bien tout ça. Pour une fois, on ne parle pas de la Coupe du Monde de football, mais de celle de rugby. Le parquet national financier a ouvert une enquête ce mercredi 9 novembre sur la gestion du comité d'organisation de la compétition.
C'est un nouveau rebondissement pour la Coupe du Monde de 2023. Après sa révocation, Claude Haché, l'ex-directeur général de l'événement, est à nouveau dans le collimateur de la justice. Selon des infos de l'équipe, le PNF avait ouvert une enquête préliminaire début octobre à propos d'éventuels dérapages financiers mêlant favoritisme et corruption. Claude Haché est cette fois-ci accusé d'agissements supposés frauduleux au sein du groupe d'intérêt Public France 2023. Bref, en gros, après avoir été révoqué pour des pratiques managériales douteuses, on le soupçonne aujourd'hui de corruption. Des perquisitions ont été réalisées ce mercredi 9 novembre, notamment au siège du comité d'organisation. Il y a très peu d'infos supplémentaires pour le moment sur le sujet, mais c'est une affaire à suivre de près.
Oui, Louise, et nous, à Toulouse, le rugby, on aime ça. Pour rappel, la Coupe du Monde de rugby masculine commencera le 8 septembre prochain, alors que la Coupe du Monde féminine se termine aujourd'hui. Les Françaises ont joué cette nuit pour la 3e place, alors on vous invite à aller regarder le résultat.
Je te donne juste un petit conseil.
Franchement, il faut que tu vois ça.
Tu le connais, lui ?
C'est vraiment pas mal, ce livre.
Ça, c'est bon à savoir.
C'est quand l'apéro ?
C'est un incontournable.
Il faut que t'écoutes ça.
J'adore le concept.
C'est de la bombe.
C'est où que ça twerk ?
Mais elle est où, la moulaga ?
On termine l'émission avec Apo, qui pour une fois est à l'heure. Elle va nous donner ses super conseils pour bien se préparer au concours et arriver avec une expression écrite et orale nickel.
Tout à fait. Alors pour rappel, toutes les écoles sans exception portent une attention particulière à la maîtrise de la langue, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. C'est vraiment un facteur déterminant. Et pour certaines, il y a même une épreuve de maîtrise du français à l'oral. C'est le cas notamment à l'IJBA, au CFJ et à l'EJT.
Et donc, comment on fait pour se préparer au mieux à l'épreuve orale de français ?
Alors Chloé, pour cette épreuve, tu le sais comme moi, il n'y a pas de magie, il faut revoir les bases et ne pas se planter parce que les questions peuvent être ardues. Perso, quand on m'a demandé le futur antérieur de je ne sais plus quel verbe, mes années de prépa littéraire se sont envolées et je me suis sentie très bête.
Livre-nous tes secrets, Apolline.
Alors mon premier conseil, c'est de commencer à réviser dès maintenant. La conjugaison, la grammaire et l'orthographe, ce ne sont pas des choses qui s'apprennent du jour au lendemain, alors mieux vaut s'y mettre tout de suite. Il y a plusieurs sites qui peuvent vous aider. L'année dernière, dans ActuVu, Marie avait parlé du site « Je révise mon français grâce à la presse par l'ESJ » qui répertorie les fautes de nos confrères journalistes et les classes par catégorie. Pour plus de conseils pratiques, je vous invite d'ailleurs à écouter cet épisode du 27 novembre 2021 dans lequel elle donne ses tips.
Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ?
Justement, on va s'entraîner. Donc si je te demande, Chloé, la définition du mot pugilat ?
Aucune idée.
C'est un combat au corps à corps. Autre question pour toi, Louise. Est-ce que tu peux m'épeler le mot amygdale ?
Je dirais A-M-Y-D-A-L.
Et non, il y avait un G entre le Y et le D. Dernière question pour toutes les deux. Est-ce que vous pouvez me donner un synonyme de confidence ?
Un secret,
un aveu, un secret, ça marche, ouais. Voilà, donc c'est ce type de questions que le jury peut vous poser. Donc mes conseils, pensez à réviser l'orthographe des mots compliqués comme coccyx, trottinette, méditerranée ou encore l'expression a fortiori. On peut aussi vous questionner sur les accords des adjectifs de couleur. Par exemple, si j'écris des robes bleues, on accorde ES, alors que si j'écris des chaussures marron, on n'accorde pas. Bossez aussi le pluriel des mots composés comme des années-lumière. On peut également vous demander si un mot est masculin ou féminin, comme un ou une échappatoire. Pensez aussi à revoir les règles des accords du participe passé, c'est hyper important. Et aussi la définition des principales figures de style. Il faut que vous sachiez par exemple ce qu'est un pléonasme ou une litote.
Et si on me demande de conjuguer le verbe bouillir au plus que parfait par exemple ?
Alors justement, dernier point important, déjà je n'ai pas la réponse. Révisez les conjugaisons. Ça coûte rien, c'est du par cœur et ça peut vous rapporter quelques points. On peut vous demander de conjuguer à un temps très simple un verbe compliqué comme moudre ou coudre. Et à l'inverse, vous allez peut-être devoir conjuguer un verbe simple comme chanter au subjonctif imparfait.
Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner ?
Oui, même s'il y a une grosse part de travail, il y aura toujours une petite part de chance. C'est pour ça que mon dernier conseil, c'est de ne pas se focaliser sur cette épreuve. Elle est importante, oui, parce qu'elle va vous faire gagner des points. Mais si vous êtes à l'aise avec la langue française et que vos connaissances sont déjà solides, ne la privilégiez pas au profit, par exemple, de la motivation ou de l'actu. Ne stressez pas, je vous assure, ça peut très bien se passer.
L'épisode touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à le faire. Merci à Esteban qui s'est démené toute la matinée pour apprendre à utiliser une table de mixage et qui sera en charge du montage. Bon courage à notre très chère rédactrice en chef Margot pour vaincre son Covid. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ActuVu. À bientôt et bon week-end.